mort à la loi afin de vivre à Dieu. Nous lisons ensemble dans la parole de Dieu en Galates chapitre 2. L'apôtre Paul nous dit ceci: Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement. Deux apôtres, Paul contre Pierre, parce qu'il avait tort. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, ils mangeaient avec les non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis, crainte des juifs chrétiens qui ne voulaient pas abandonner certaines prescriptions de la loi de Moïse. Les autres juifs aussi sont entrés dans ce jeu au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de la bonne nouvelle de l'évangile, j'ai dit à Céphas devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, c'est-à-dire ils mangeaient toutes les nourritures possibles jusqu'à ce que ce parti de circoncis arrive. Comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives? Nous sommes juifs de naissance, dit Paul à Pierre. Nous ne sommes pas de ces pécheurs de non-juifs. Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être justifiés en vertu de la foi de Christ et non pas des œuvres de la loi, car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être justifiés dans le Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, si on trouve maintenant que nous agissons comme des païens, des non-juifs, et que nous sommes des pécheurs, donc le Christ serait alors un serviteur du péché? Jamais de la vie. Si je reconstruis ce que j'ai détruit, je montre que je suis un transgresseur. Paul veut dire que si je rebâtis toutes les lois de l'alliance mosaïque, comme Pierre voulait le faire, je montre que c'est plutôt moi qui sois en tort. Si vous comprenez pas toute la partie que je viens de lire, c'est pas grave. Voilà la partie qui nous concerne ce matin, qui peut se tenir même un peu seul en dehors de ce contexte. En effet, dit Paul, par la loi, donc il parle de la loi de Moïse, par la loi, je suis moi-même mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Je suis ou j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, ou la foi au Fils de Dieu plus exactement, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. Ce matin, je voudrais poursuivre un peu ce que nous avons commencé dimanche passé en méditant sur ce neuvième chapitre d'Ecclésiaste et en abordant dans l'Ancien Testament la justification, la justification par la foi. Je dois avouer que je ne pense jamais avoir prêché sur Galates 2, 19 et 20 en 35 années de prédication. Ce passage m'a fasciné depuis 40 ans. Je l'ai étudié et réétudié, mais j'ai jamais osé le prêcher. Et même maintenant, j'ai bien peur que peut-on vraiment expliquer un millième de ce que Paul voulait dire dans ces deux versets? Mais nous allons tenter, sous la main de Dieu, d'apprendre de sa parole et de son esprit aujourd'hui. Donc, vous avez peut-être vu dans le passage que Paul parle de deux sortes de vie, deux manières de vivre vis-à-vis de Dieu. Vous voyez dans le passage, il dit, en effet, par la loi, je suis moi-même mort à la loi. Voilà une manière de vivre à la loi, de vivre sous la loi, de vivre conditionné par une alliance des œuvres. Et il dit, je suis moi-même mort à la loi afin de vivre pour Dieu. En fait, dans le texte, dans l'original, il faudrait mettre le mot « à » chaque fois. Je suis mort à la loi afin de vivre à Dieu. Mais comme en français, ça ne sonne pas très bien, c'est difficile de traduire comme ça. Mais ça montre qu'il a deux sortes de vie. Il doit mourir à une manière de vivre, la vie sous la loi, afin d'avoir une autre manière de vivre, la vie qui est vivant à Dieu. Deuxièmement, il dit justement qu'il faut mourir, pardon, petite erreur là, il faut mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. Il est impossible pour vous et moi de vivre à Dieu, d'être vivant à Dieu, de vivre pour lui, si nous ne mourrons pas à cette autre manière de vivre, qui est le fait de vivre sous la loi, sous son régime. Dans le verset suivant, dans le texte, donc le verset 20, Paul explique sa mort à la loi et sa nouvelle vie pour Dieu. Donc, nous avons vu que dans le verset 19, il dit « Je suis mort à la loi afin de vivre à Dieu » et maintenant il va expliquer ça un peu plus, regardez. Ayant dit qu'il est mort à la loi, il dit comment il est mort à la loi. J'ai été crucifié avec le Christ. C'est comme cela qu'il est devenu mort à la loi. La loi ne peut plus rien lui exiger. Et puis, ayant dit, afin de vivre à Dieu, d'être vivant envers Dieu, il explique cette nouvelle vie à Dieu et pour Dieu. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et ma vie présente dans le corps, dans la chair. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et c'est tout cela que nous voulons essayer de comprendre aujourd'hui. Donc, une réalité à saisir, pour terminer cette introduction, c'est seulement en mourant à la loi, en ce qui concerne ta justification, que tu peux vivre à Dieu en ce qui concerne ta sanctification. Alors, je laisse cette phrase un moment, elle est dense, et à la fin de ce message, j'espère que vous allez bien la comprendre. Premier point de notre message aujourd'hui, après cette introduction, on veut se demander, quand Paul dit qu'il est mort à la loi afin de vivre à Dieu, ou vivre, être vivant à Dieu, vivre à Dieu ou pour Dieu, selon Paul, c'est quoi exactement? Et c'est simplement d'être dans son... si nous vivons à Dieu, nous sommes vivants envers lui. Dans notre cœur, nous sommes affectionnés, nous sommes attirés, nous sommes désireux vis-à-vis de Dieu. Nous sommes dévoués dans le cœur. C'est ça, être vivant vis-à-vis de Dieu. Avant de l'être, vous étiez mort à Dieu. Dans le cœur, dans vos désirs et dans vos pensées, vous n'aviez aucun égard pour Dieu, aucune attraction, aucune dévotion. Donc voilà. Deuxième point, mourir à la loi, c'est quoi? Si je dois mourir à la loi pour être vivant à Dieu, ça veut dire quoi, mourir à la loi? La première chose que nous devons savoir, c'est quoi la loi? La loi, c'est pas simplement des commandements. En français, lorsque nous parlons d'une loi, normalement, nous faisons allusion à un ensemble de commandements ou d'exigences légales. Mais quand Paul utilise le terme « la loi », il ne veut pas dire simplement des commandements. D'ailleurs, si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas mort au commandement de Dieu. Dieu vous adresse toujours des commandements. Aimez votre prochain comme vous-même. Donc, vous avez des commandements dans la vie chrétienne. Mais Paul, quand il parle de la loi, il parle d'une alliance, c'est-à-dire d'un accord, d'une dispensation, d'un régime sur lequel vous êtes, qui contient à la fois des exigences et des promesses, des résultats, des conséquences. Si vous faites ceci avec moi, dit Dieu, je ferai ceci pour vous. Et donc, nous pouvons dire, que le principe fondamental de la loi de Moïse, de cette alliance, pour les gens qui vivaient sous la loi, c'est « si tu obéis, tu seras béni. Si tu obéis, tu seras béni. Vis à la hauteur de mes exigences et tu auras ma faveur. » Voilà donc tout un système de relations avec Dieu qui, je dis juste en parenthèse, n'a jamais été le moyen de salut, même dans l'Ancien Testament. Ce régime un peu conditionnel, si tu obéis, tu seras béni, s'appliquait uniquement dans l'Ancien Testament aux bénédictions terrestres. C'est-à-dire pour avoir des bonnes moissons, pour que les femmes en Israël n'aient pas de fausses couches, pour que le pays ait la victoire sur ses ennemis. Pour ces sortes de bénédictions terrestres, il fallait que Israël les gagne par leurs œuvres, en obéissant à la loi. Maintenant, malheureusement, les Juifs ont mal compris l'alliance mosaïque et ils ont appliqué ce système d'œuvres à la faveur éternelle de Dieu et ils pensaient devoir mériter le salut éternel de cette même manière. Mais ça, c'était juste une fausse manière de penser. Mais voilà la loi. La loi, c'est un système relationnel qui gouverne une relation avec Dieu par lequel, pour être béni, pour avoir la faveur de Dieu, il faut obéir. Alors, donc, mourir à la loi, c'est quoi? Alors, quand on parle dans la Bible de mourir à quelque chose, ça veut dire que cette chose n'a plus de juridiction sur toi, n'a plus de pouvoir sur toi. Et cela veut dire, dans ce cas, que la loi ne peut plus rien t'exiger si tu es en Christ. Mourir à la loi, ça signifie que tu n'es plus sous la puissance, sous le pouvoir de la loi pour condamner. Parce que la loi disait, si tu désobéis, tu es maudit, tu es condamné. La loi n'a plus de pouvoir de dire aux chrétiens qui pêchent, tu es maintenant condamné. Tu n'es plus sur son pouvoir de condamner. Mais tu n'es plus sur son pouvoir de promettre ou de récompenser. Tu vas plus recevoir des bénédictions seulement quand tu as obéi selon cette disposition de la loi. Tu vas recevoir des bénédictions de Dieu et sa faveur sur un autre principe que nous verrons tout à l'heure. Et la loi n'a plus le pouvoir, donc pas de te condamner, pas de te récompenser, et même la loi n'a plus le pouvoir de te commander. Ça peut sembler bizarre de le dire, parce que je viens de dire qu'il y a des commandements dans la vie chrétienne, mais ce ne sont pas des commandements légaux de la loi qui font suspendre sur ta tête donc la menace de sanction, de la désapprobation ou de la condamnation. Tu n'es plus sur des commandements légaux, des commandements qui ont cette sorte d'impératif menaçant sur toi. En d'autres termes, mourir à la loi, ça veut dire que les 10 commandements, en tant que système pour régler ta relation avec Dieu, n'a plus rien à faire avec toi. Tu es mort, tu n'existes même pas dans cette affaire. Troisième point, et restez patient avec moi, nous allons devenir concrets au fur et à mesure. Pourquoi faut-il que tu meures à la loi, c'est-à-dire à cette manière de tenir une relation avec Dieu, cette manière conditionnelle, pour vivre à Dieu? Alors, dans un premier temps, on pourrait dire que tant que tu es sous la loi, tu es condamné. Quelqu'un qui vit sur l'alliance des œuvres, donc quand vous avez tous désobéi maintes fois comme moi, vous êtes sanctionné par la loi, vous êtes coupable, vous êtes condamné, vous êtes privé de l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas les ressources spirituelles, vous êtes séparé de Dieu. Comment est-ce que vous allez vivre à Dieu lorsque vous n'avez même plus son esprit, parce que vous avez été privé de toute bénédiction et de toute faveur et de toute aide de Dieu par votre désobéissance? Objectivement, sous la loi, on est tous condamnés. On est mort dans nos péchés, notre cœur est mort et nous n'avons aucune ressource pour nous relever de cette mort spirituelle. Mais subjectivement, pourquoi est-ce qu'il faut que tu arrêtes de vivre une vie conditionnelle envers Dieu? Que tu essaies d'être à la hauteur de Dieu et de sa loi pour mériter sa faveur, son amour et ses bénédictions? Pourquoi subjectivement est-ce qu'il faut que tu désespoires d'un tel système de relation avec Dieu? Eh bien, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui vivent selon ce système. Si vous êtes un bon catholique et vous vivez selon le dogme officiel de l'Église catholique, vous vivez sous la loi. La faveur de Dieu et votre justification devant Dieu, être en règle avec Dieu, dépend de votre obéissance à la loi, votre fidélité à pratiquer les rites et les sacrements de l'Église, etc. Et pourquoi faut-il complètement mourir à cette réalité de devoir être à la hauteur? Sinon, vous ne pouvez pas vivre à Dieu. Nous allons voir subjectivement pourquoi quelqu'un qui vit en essayant d'être à la hauteur, en essayant de répondre aux exigences de Dieu, ne peut pas vivre pour Dieu. Et nous allons le voir en posant quelques questions. Supposons que toi, tu es encore en train de vivre par ce principe de la loi. Quel est ton but en vivant sous la loi et donc ta grande préoccupation si tu es quelqu'un qui n'est pas mort à la loi? Alors, ton but, en priant, en essayant d'aimer Dieu, d'aimer ton prochain, d'être honnête, d'être fidèle, ton but, c'est d'éviter la désapprobation de Dieu. Ton but, c'est de gagner sa faveur. Ton but, c'est de gagner le paradis. Ta grande préoccupation dans la vie, en faisant constamment ces choses, en priant, en étant religieux, ta grande préoccupation, c'est quoi? C'est d'être à la hauteur. C'est de répondre aux exigences. Si tu vis donc cette sorte de vie, sous quelle sorte d'impératif est-ce que tu vis? Par rapport à ces commandements, aime ton prochain comme toi-même, ne commets pas le vol, le mensonge, l'adultère, le meurtre, etc. Tu es sous quelle sorte d'impératif? Alors, comme nous avons dit tout à l'heure, ce sont des impératifs menaçants, des impératifs légaux, sévères, sans pitié, sans nuance. Ce sont des commandes de la loi mosaïque. Quelles sont tes ressources pour pouvoir vivre sous la loi, si tu es quelqu'un qui n'est pas mort à la loi, mais encore vivant à la loi? Alors, sous la loi, tu es laissé à toi-même. Parce que justement, le système de la loi veut savoir est-ce que toi, tu es à la hauteur. Donc, c'est toi qui es sous l'exigence. C'est toi qui dois être le répondant. C'est toi qui dois être assez bon pour Dieu. Donc, tes ressources sont plus ou moins toi. C'est vrai que les Juifs qui vivaient sous la loi, ils croyaient que ils pouvaient être aidés par Dieu, mais en fin de compte, c'était vraiment eux-mêmes qui devaient être le répondant, celui qui était ou celle qui était à la hauteur. Alors, dans cette sorte de vie, quel est ton moyen de vivre cette vie sous la loi avec ses ressources qui sont plus ou moins toi-même? Alors, ton moyen de vivre, c'est la volonté, c'est le vouloir, c'est le pouvoir de ton vouloir, c'est le fait de t'efforcer, de fournir plus d'efforts si tu fais échec, de rebondir, de te ressaisir chaque fois. C'est une vie d'effort indépendant, autonome. Et quelle est ton attitude de cœur envers Dieu si tu es sous ce régime de la loi, tu essaies de gagner la faveur de Dieu, tu dois être celui qui est à la hauteur, tu crois que Dieu t'impose tout seul de répondre à ses exigences, quelle est l'attitude de cœur envers Dieu que ça produit? Eh bien, un cœur démotivé. Qui peut aimer un Dieu qui s'appelle loi? Donc, c'est simplement impossible sous le régime de la loi d'être attiré, d'avoir le cœur qui a un élan vers Dieu, qui veut juste aimer ce Dieu tellement il est attractif. Non. Sous la loi, le problème, c'est que le cœur est désaffectionné vis-à-vis de Dieu. L'obéissance et la religion, c'est une corvée. On le fait, mais pas de bon cœur. Donc, le résultat de vivre sous la loi, c'est toujours, selon le Nouveau Testament, c'est qu'on pêche plus, on désobéit plus, parce que le cœur est désaffectionné envers Dieu et démotivé. OK, nous relisons le verset 19 et nous allons nous poser une quatrième question. En effet, par la loi, je suis moi-même mort à la loi, mort à ce système de devoir être à la hauteur. Afin de vivre pour Dieu, j'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis. Alors, la question maintenant, c'est si vivre sous la loi est si horrible, et c'est horrible, comment peux-tu mourir à la loi? Comment peux-tu être complètement délivré d'un tel devoir d'être à la hauteur de la justice de Dieu. Objectivement, le chrétien meurt à la loi avec Christ lors de sa crucifixion. C'est-à-dire, tu fais rien pour mourir à la loi, à ce système. C'est Christ qui met fin au système. Nous lisons dans Romains 7:4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ au calvaire mis à mort en ce qui concerne la loi. Voilà comment tu meurs à la loi. Par le corps de Christ, lorsque Christ est crucifié à la croix, il est à ta place. C'est la loi qui le crucifie. C'est la sanction de la loi parce que tu n'as pas été à la hauteur. Et la loi, donc sous le régime de la loi, celui qui est désobéissant doit mourir et périr. Et donc la loi prend Christ à votre place et il demande que toute sa sanction soit donc exercée. Et Christ remplit toutes les exigences de la loi. Tout ce que la loi te demande, Christ a répondu à ta place. Il est devenu ton répondant. Ce n'est plus toi qui réponds aux exigences de la loi. Christ a pris toute la responsabilité de répondre. Il a répondu à tout ce que la loi t'a jamais exigé et tout ce que la loi peut jamais t'exiger. Il a déjà répondu. Tu n'es tout simplement plus le répondant, la personne qui doit être à la hauteur, parce que Christ a été à la hauteur pour toi à la croix. Tout a été réglé. Ça, c'est objectivement. Mais subjectivement, comment est-ce que vous, en tant que chrétien, vous arrêtez de vivre comme si vous devez constamment être à la hauteur de ce que Dieu veut de toi? Et je dois vous dire, il y a beaucoup de chrétiens qui retombent constamment dans cette manière de vivre, qui est simplement le fait de vivre à la loi, d'être vivant à la loi. Mais subjectivement, le chrétien meurt à la loi dans sa conversion en perdant tout espoir de gagner la faveur de Dieu par son obéissance. Quand le Seigneur t'amène à Christ, par la loi, tu vois toutes les exigences de Dieu, tu apprends ce que Dieu veut d'un être humain et tu essaies de le faire et tu apprends par la loi et ses exigences que tu ne peux pas. Il n'y a aucun moyen. Nous lisons l'expérience de Paul par rapport à ça. Paul dit qu'à un moment donné, avant sa conversion, il tentait tellement dur d'être à la hauteur, de répondre à toutes les exigences de la loi. Mais il dit, et le péché, donc le péché en lui, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement, par le fait que je tentais d'obéir, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Enfin, Paul perd l'espoir. Il meurt à l'espoir d'être à la hauteur de Dieu. Il se dit, si Dieu va me donner sa faveur, ça va être sur un autre principe. Ça va être selon une autre condition, mais pas que moi je sois à la hauteur. Et donc, quand vous entendez l'Évangile et vous entendez que Christ a rempli toutes les exigences, que c'est lui qui remplit la condition et que Dieu vous accepte et vous bénit sans que vous l'ayez fait parce qu'il l'a fait à votre place, alors vous entrez dans une nouvelle manière de vivre vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas « il faut que je sois à ta hauteur », c'est « Christ a été à la hauteur pour moi ». Donc, je suis accepté et béni. Alors, nous voilà chrétiens, morts à la loi avec Christ. Et comme j'ai dit, chacun de nous doit faire attention parce que nous avons encore le péché en nous. Et ce péché veut nous pousser à vivre une vie légale encore avec Dieu. Une vie où nous sommes préoccupés constamment, où nous croyons que la chose la plus importante dans notre vie chrétienne, c'est d'être à la hauteur. et que c'est notre vie chrétienne, sa qualité, qui détermine combien Dieu nous aime et nous bénit. Et nous sommes sous la loi encore. Nous sommes juste dans le même principe. Parce que c'est nous qui sommes le répondant. C'est nous, par notre vie, qui déterminons notre relation avec le Dieu vivant. Nous sommes tout simplement sous la loi encore. Pas complètement de manière à perdre le salut, non. Nous sommes sauvés, mais notre vie chrétienne est gravement abîmée et affaiblie parce que nous ne vivons plus dans la liberté de Christ, mais nous vivons encore comme si nous sommes sous la loi. Donc, nous arrivons maintenant dans le vif du message maintenant et nous allons regarder ce verset 20 et essayer de répondre à cette cinquième question. La question c'est, mort à la loi avec Christ, quelle est ta nouvelle manière de vivre avec lui? Quelle est la nouvelle manière de vivre vis-à-vis de Dieu qui n'est pas une vie conditionnelle, qui n'est pas le fait de penser que c'est en étant à la hauteur que je vais avoir ceci ou cela de la part de Dieu. Quelle est la nouvelle manière de vivre? Nous lisons le verset. J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis. Attention les amis, quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis, il ne parle pas sur le plan existentiel, comme s'il n'existait plus. Ou comme si certains chrétiens évangéliques pensent que ce verset veut dire que moi, je ne vis pas la vie chrétienne, je laisse faire Jésus. C'est simplement pas vrai. Il n'y a pas de remplacement de ma personne, de sorte que je ne fais rien dans la vie chrétienne. Rappelons-nous que Paul était en train de parler du fait d'être vivant à la loi. Que ce n'est, à un moment donné dans ma vie, c'était moi qui devais répondre à la loi. C'est moi qui devais être à l'auteur. Il dit, je suis crucifié avec Christ et mort dans ce sens à la loi que ce n'est plus moi qui dois vivre la loi et répondre aux exigences de la loi. Donc, quand il dit ce n'est plus moi qui vis, il est en train de parler sur ce régime de la loi. Quand la loi regarde, il ne me trouve plus. Je n'existe plus en tant que personne qu'il peut exiger, qu'il peut commander. Parce que Christ a déjà tout obéi pour moi. Et donc, la loi ne peut rien me demander parce que je n'existe pas pour lui. Donc, c'est dans ce sens que ce n'est plus moi qui vis. Mais maintenant, il parle, comment est-ce qu'il vit alors, s'il ne vit pas vis-à-vis de la loi? Mais c'est Christ qui vit en moi, et ma vie présente dans la chair, dans le corps, je la vis, et voilà une nouvelle manière de vivre, je la vis dans la foi, il ne faudrait pas traduire « du », c'est vraiment « au Fils de Dieu » qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous voulons maintenant essayer de sonder un tout petit peu ce secret de la vie que Paul présente dans si peu de mots, si densément ici, et comprendre cette vie libérée du devoir d'être à la hauteur, qui est quand même une vie qui devient de plus en plus comme Dieu le veut. Alors, nous reposons les mêmes questions que nous avions posées tout à l'heure à la personne qui vivait sous le régime de la loi. Alors, en tant que chrétien qui vit maintenant sous la grâce de Christ, quel est ton but en vivant à Dieu ou pour Dieu? Et donc, quelle est ta grande préoccupation? Vous allez vous rappeler que lorsque on vivait sous la loi, notre but c'était d'être à la hauteur, de répondre aux exigences, de gagner la faveur de Dieu. Maintenant, ce n'est plus du tout cela, parce que nous avons la faveur de Dieu, nous avons été graciés, nous avons été faits bénéficiaires du don permanent, définitif, de la faveur, de l'amour, de l'adoption, de la justification. Nous sommes en règle gratuitement avec Dieu pour toujours par Christ. Donc, Nous sommes des fils bénis, nous sommes des prodigues revenus à la maison, nous sommes embrassés, chéris, nous n'avons rien fait pour tout cela, rempli aucune condition. C'est Dieu qui l'a fait en remplissant la condition par Christ. Quel est donc notre but en tant que prodigue revenu à la maison, accueilli et embrassé? Ben, notre but, c'est pas d'être à la hauteur. Nous n'avons pas besoin d'être à la hauteur. Nous avons été accueillis lorsque nous ne l'étions pas. Notre but, c'est de nous réjouir de cet amour, de cette faveur gratuite de ce Dieu qui est venu pour les injustes, qui meurt pour les ennemis et qui justifie les impies. Je le redis, qui est venu pour les injustes, qui est mort pour les ennemis, qui justifie les impies. Notre but dans la vie, c'est de jouir de toute cette bonté glorieuse de Dieu et juste de répandre dans la gratitude et dans l'amour à ce Dieu. Prends-moi tout entier, fais tout ce que tu veux, en moi et de moi, je suis à toi. Sous quelle sorte d'impératif est-ce que tu vis maintenant, toi le chrétien, en qui Christ vit, toi qui vis par la foi au Fils de Dieu? Eh bien, il y a des impératifs dans la vie chrétienne. Nous voyons que les apôtres, le sermon sur la montagne de Jésus, il nous donne plein d'impératifs. Il dit « ne pratiquez pas votre justice devant les hommes, d'être vu par eux ». Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et de quoi vous allez vous vêtir. Il vous dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Il dit, priez comme ceci. Il nous dit, aimez vos ennemis. Il dit, ne regardez pas une femme pour la convoiter. Il dit, ne vous mettez pas en colère avec votre prochain. Il nous donne plein d'impératifs. Ainsi, l'apôtre Paul aussi, il nous donne plein de commandements dans ses épîtres. Mais quelle sorte d'impératif? Il faut que nous comprenions maintenant que nous ne sommes plus sous un impératif conditionnel qui dit « Sois à la hauteur, c'est toi qui dois répondre à cette exigence. » Nous sommes sur un impératif. Comment dirais-je ça? Non pas un impératif d'exigence, mais un impératif de don, de bénédiction. Dieu vous dit, je vais vous bénir. Je vais vous transformer. Vous allez devenir des gens qui pratiquent votre justice, non pas devant les hommes, mais devant moi. Vous allez devenir honnêtes, aimants. Je vais vous bénir de cette transformation. Soyez bénis, laissez-moi faire. Vous voyez, c'est très, très différent. Je ne suis plus sur cette crainte. Sois à la hauteur, c'est toi le répondant. Non, celui qui actionne tout cela en moi, c'est Christ qui vit en moi. On verra tout cela tout à l'heure. Mais regardons la sorte d'impératif que nous avons dans la vie chrétienne. Nous voyons que Pierre, en prêchant, dit ceci. C'est à vous, premièrement, parce qu'il prêche aux Juifs, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses péchés. Regardez, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça le salut. Le Christ vient nous bénir en nous détournant lui-même de nos péchés. Donc la sanctification n'est pas cette exigence pénible à laquelle je dois être à la hauteur, c'est plutôt une bénédiction dont je suis bénéficiaire. Christ me bénit en me détournant de mes iniquités, et vous aussi. Mais attention, c'est un impératif. L'impératif de bénédiction et de don est aussi impératif que l'impératif légal de la loi. Le Seigneur dit, vous n'allez pas rester comme vous êtes. Je vous aime trop pour ça. J'ai trop envie de vous bénir pour vous laisser comme vous êtes. Regardez dans Hébreux 8. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, une nouvelle alliance, une nouvelle manière d'avoir une relation avec Dieu. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Vous voyez que toutes les lois qui étaient avant des exigences auxquelles vous deviez répondre sont devenues des promesses. C'est une promesse, n'est-ce pas? Je mettrai mes lois dans leur esprit. Et chaque fois que vous voyez donc un commandement dans la Bible, comme le commandement « Dévouez-vous à la prière », Colossiens chapitre 4, vous pouvez d'abord vous dire « C'est ce que Dieu promet d'écrire dans mon esprit, d'écrire dans mon cœur, d'écrire dans ma vie. » C'est d'abord une promesse de ce que Christ va faire en moi avant d'être une chose à laquelle je me mets à faire. Et je dois me mettre, c'est vrai, à le faire. Avant de lire ce passage, je veux juste expliquer que parfois les gens pensent que donc, nous n'avons pas d'effort à fournir. Peut-être que je vais attendre, je dirai ça dans une seconde. La différence entre l'impératif sous la loi et sous la grâce, c'est justement que je ne suis pas laissé seul pour produire ce que Dieu demande, mais je bénéficie de ce que Dieu veut dans ma vie, de sa production de cela. Donc, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le corps de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Regardez ça. Je ferai en sorte. Nous ne sommes plus le répondant autonome, laissé à nous-mêmes. Et que je ferai en sorte que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, nous pouvons vivre dans cette liberté de savoir qu'au fil du temps, graduellement, progressivement, Christ va nous rendre comme il veut que nous soyons. La troisième question, c'est quelles sont tes ressources pour vivre sous le régime de la grâce en Christ? Sous le régime de la loi, nos ressources étaient juste nous-mêmes. Mais nous voyons en haut que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que Paul veut dire? Il veut dire que si tu es chrétien, il y a un nouveau siège d'action dans ta personnalité. Ce n'est pas juste tes ressources, ton âme, ton esprit, ta personnalité, ton vouloir. Ce n'est pas la seule chose qui est active en toi. La chose qui est encore plus active en toi et plus déterminante, c'est pas toi, c'est Christ. Le Rédempteur est en toi, et lorsqu'il dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », il ne veut pas dire simplement que Christ existe en toi, dormant ou latent. Le mot « vivre » parle d'une action, d'une force avec qui on a affaire. Christ vit activement en moi. Ça signifie que la vie chrétienne se passe selon une nouvelle ressource. Christ, quand je le veux et quand je ne le veux pas, il vit en moi, il est en train d'agir en moi et j'ai ce bonheur d'avoir le Rédempteur qui déclenche tout le pouvoir de sa rédemption, tout ce qu'il est devenu lui-même en tant que ressuscité, homme parfait, homme perfectionné, il déclenche cette nouvelle vie céleste qu'il a obtenue, il le déclenche en moi progressivement et graduellement. Et c'est ça mon espoir dans la vie chrétienne. Je ne suis pas comme le païen qui doit porter son Dieu sur son épaule. Je suis la personne qui est portée par mon Dieu. C'est ça la différence. Ensuite, quel est ton moyen de vivre avec ses ressources? Quel est un moyen de vivre avec ses ressources? Nous voyons en haut que Paul explique le moyen de vivre. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Rappelez-vous que sous le régime de la loi, quel était le moyen, la manière de vivre? C'était mon vouloir, mes efforts, s'efforcer, se ressaisir. Mais ici, la manière dont le chrétien vit, comme ce n'est plus vous qui répondez à quelque exigence que ce soit dans la vie chrétienne, vous vivez par la foi au Fils de Dieu. Maintenant, c'est quoi la vivre par la foi? La foi, c'est l'opposé de la loi. La loi vous demande de répondre vous-même, d'être vous à la hauteur. La foi, par la foi, on reçoit. Quand j'exerce la confiance en quelqu'un, c'est parce que cette personne va faire quelque chose pour lequel je me confie en lui. Vivre par la foi, ce n'est pas produire en réponse à une exigence, c'est recevoir en réponse à une promesse. Donc, lorsque la Bible me dit, pour reprendre l'exemple, dévouez-vous à la prière, la première chose que je fais, c'est pas de dire, ah, je vais le faire, je vais être un homme de prière. La première chose que je fais, c'est que je vis par la foi au Fils de Dieu qui est en moi. Et je me confie à lui pour que progressivement, graduellement, il me bénit. La vie de prière devient une bénédiction que je reçois dans ma vie. Donc, c'est ça ma manière de vivre. Je ne suis pas tout seul, je vis en m'appuyant sur lui. C'est ça, la vie, dans la foi au Fils de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire, les amis, que vous ne fournissez aucun effort dans la vie chrétienne. Là, c'est une grave erreur que beaucoup de chrétiens évangéliques font. Ils comprennent le principe de la foi, c'est s'appuyer sur l'action d'un autre, mais ils pensent que ça veut dire que je n'ai aucune action à fournir. Or, dans le Nouveau Testament, on voit que nous luttons, nous combattons, nous nous efforçons d'obéir, nous renonçons à nous-mêmes, nous disons non au péché. Il y a plein d'efforts. Quelle est la différence? Pensez à Pierre, le jour où, dans le bateau, il voit Jésus venir à lui en marchant sur l'eau et dit, Seigneur, si c'est toi, commande-moi. Voilà une exigence, mais qui va être une exigence non pas de la loi, mais de bénédiction. Commande-moi de venir à toi. Et Jésus dit, viens. Maintenant, si c'est une exigence de la loi, Jésus ne donne que l'exigence. Viens à moi, mais c'est à toi seul de te débrouiller pour marcher sur l'eau. Et Pierre serait tombé tout de suite, n'est-ce pas? Une exigence de la loi exige sans rien donner pour aider. Mais cette exigence n'est pas comme ça. Lorsque Jésus dit, viens, il exige, c'est impératif que Pierre vienne. Il doit venir. Mais en exigeant, Christ bénit Pierre avec une force surnaturelle qui n'est pas la sienne de pouvoir marcher sur l'eau. N'est-ce pas? Mais est-ce que cela veut dire que Pierre n'a aucun effort à fournir? Il n'essaie pas de mettre un pied devant les autres, devant l'autre. Pas du tout. Il marche. Mais quelle est la différence? Il marche, il fait son effort, mais animé d'une puissance qui et celle de Christ. Voilà un exemple un peu peut-être bizarre, mais concret pour vous montrer que nous faisons des efforts pour dire non à certains péchés, pour aimer notre prochain, pour devenir des hommes et des femmes de prière, pour témoigner, mais nous le faisons dans la foi au Fils de Dieu, en nous appuyant sur lui. Nous nous considérons, chers amis, en vivant cette vie de foi, comme quelqu'un dont la place, la position fondamentale, c'est que tu dois être, tu es aimé, guidé, fortifié, enseigné, défendu, corrigé, discipliné, pardonné, purifié, relevé et perfectionné par Christ. Constamment, constamment, il est en train de faire toutes ces choses et vous vivez en vous appuyant sur lui pour faire tout cela et plus. Et dans la force de tout ce qu'il fait pour toi, tu es capable de fournir des efforts, de dire non à la chair lorsque la chair veut que tu fasses quelque chose de mauvais. Dernièrement, et nous terminons le message avec ceci, quelle est ton attitude de cœur envers Dieu sous le régime de la grâce? Nous avons dit que sous le régime de la loi, l'attitude du cœur, c'est un cœur complètement démotivé et désaffectionné envers Dieu, parce qu'on le voit comme un Dieu qui exige et qui ne bénit pas, qui ne bénit que si on est à la hauteur. Mais Paul explique dans ce passage, je vis dans la foi du Fils de Dieu, regardez bien, sa confiance constante est dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et nous voyons une attitude de cœur de Paul. Il vit dans cette assurance, cette foi et cette assurance que le Fils de Dieu lui-même m'a aimé. Et rappelez-vous, Paul était le terroriste. Il était le grand persécuteur des chrétiens. Et Christ s'est livré pour lui à la croix lorsqu'il était encore cet homme mauvais. De même pour vous. Nous vivons dans cette confiance, dans cette attitude émerveillée du cœur que nous savons, et regardez bien, qui dit « m'a aimé, aimant pour moi ». C'est ça l'attitude chrétienne, que nous savons que le Fils de Dieu m'a aimé moi. Non pas parce que j'étais à la hauteur, parce que je ne l'étais pas et je ne le serai jamais, mais il m'a aimé. Il est comme ça, plein de grâce et de vérité. Et mon attitude de cœur est une attitude d'assurance, d'attraction, qui ne peut pas être attirée, suprêmement attirée, par un Seigneur, un Dieu qui fait comme ça pour nous, qui dit « Finis tes efforts d'être à la hauteur, je t'aime jusqu'à la mort, tel que tu es. Je t'aime, point final. Je me suis livré pour toi. C'est moi et mon amour qui conditionne, qui détermine le nombre et l'abondance de tes bénédictions. C'est pas toi, c'est moi. Je te bénirai parce que je t'aime. » Donc, notre attitude devient une attitude motivée, émerveillé, attiré, affectionné envers le Seigneur Jésus et par lui envers le Père. Et nous voyons que, en fin de compte, la vie chrétienne ne devient pas une chose, une règle. Nous ne vivons pas vis-à-vis d'une norme, mais nous vivons vis-à-vis d'une personne aimante, qui nous aime, qui nous a aimés, qui s'est livré pour nous. Et l'amour de Jésus-Christ devient le centre, le moteur de notre cœur qui l'aime en retour. Voilà un changement énorme entre les jours où nous voulions être à la hauteur, où nous étions tristes et misérables et stressés constamment par nos échecs, par les endroits où nous manquait le but. Et maintenant, nous voyons que Christ est le grand répondant, le seul répondant aux exigences de Dieu, et que nous sommes les bienheureux récipients de tout cet amour et cette faveur et son œuvre en notre faveur. Que Dieu nous aide à ne plus vivre sous la loi, ne plus essayer d'être à la hauteur afin de gagner sa faveur, mais de jouir de cette faveur qu'il nous donne donc gratuitement. Nous allons maintenant, David va reprendre les contrôles et nous allons chanter un chant qui parle de cette